bonsoir. Nous sommes lundi 24 février 2025, il est 18h et vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web. On se retrouve avec une nouvelle console électronique que pilote Nina d'une main de maître pour votre quinzomadaire radiophonique préféré, toujours avide de découvertes et de première fois. Ce soir, il sera question de jeunesse, de paradis artificiel. Mon invité est romancière. Mais avant de commencer, avez-vous déjà connu une amitié totale? C'est le cas de Juno et de Lex, deux adolescents, une fille et un garçon vivant en Irlande au début des années 80. Leurs années collège ne sont pas vraiment du genre joyeux. On est dans l'Irlande catholique avec des enseignants du genre sadique, où parler de châtiment corporel, seul même encore un euphémisme, tant ce sont plutôt à des tabassages que se livrent les responsables et les enseignants de cette école. C'est après une ultime humiliation de Sean, le vrai prénom de Lex, que Juno va prendre sa défense dans la cour de récréation et nouer ainsi une amitié tout en pudeur. L'humiliation par l'enseignant débouchant sur une attaque dans la cour de récréation, mais je ne vais pas ici vous raconter l'histoire. Dans ce décor pluvieux, oui, on est en Irlande, je le rappelle, la vie de Juno et de Lex n'a rien de réjouissant a priori. Et pourtant, ce récit n'est pas plomb-blanc. Croyez-moi, une fois ce livre ouvert, vous n'aurez pas envie de le lâcher. Cela tient, je crois, au style de Carl Gerry, l'auteur du roman, qui a réussi à infuser autant de douceur et de tendresse dans un récit qui pourtant narre des événements tragiques qu'il n'élude jamais. Car on est dans un grand mélodrame social comme on n'en fait plus en France. La relation entre Juno et sa mère est à cet égard magnifiquement décrite tout en amour tu et empêché. Il y a chez cet auteur une qualité d'écriture qui ne prend jamais ses personnages de haut. Je vais un peu caricaturer, mais c'est pas grave, vous êtes prévenus. Dans un roman français, il y aurait forcément une tendance à plaquer un schéma d'exploitation, domination à ses personnages. Là, c'est tout le contraire. C'est écrit à la hauteur des adolescents qui vivent dans un environnement violent, qui conquièrent une forme de tendresse, ils ne sont jamais pris de haut. C'est un grand roman humaniste qui ne juge pas ses personnages, il les montre tels qu'ils sont avec leur misère mais aussi avec toute leur grandeur. Et ça s'appelle Juno et Lex de Carl Gerry aux éditions de l'Olivier, c'est traduit par Céline Leroy et je suis vraiment désolé de l'avoir aussi mal lu. Bonjour Mathilde Enslin.
Bonjour.
On s'est parlé avant la radio et j'ai même pas pensé à vous demander comment on prononce votre nom, ce que je fais toujours. Alors on dit Enslin ou Enslin ?
Plutôt Enzelin.
Enzelin, pardon.
J'accepte ouais. Enzelin aussi.
Je sais pas comment je vais prononcer, mais j'ai une idée bizarre. Vous avez publié aux éditions Les Avrils de la Saison des Bêtises, votre premier roman. Si la quatrième de couverture dit vrai, vous êtes aussi scénariste, l'histoire de Victor dont on va parler maintenant. Pourquoi c'est plus un roman qu'un film, un téléfilm ou un long métrage ?
À cause du style. J'ai vraiment voulu travailler le style. Je suis scénariste et ce qui est très différent par rapport à l'écriture de scénario, c'est de trouver un style qui va servir le thème et l'histoire.
Vous avez, maintenant vous aimeriez quelqu'un l'adapte en film ?
Ah oui, j'adorerais.
Ou c'est trop tôt, vous avez peur que ça vous échappe encore ?
Ah non, j'adorerais. Non, ce serait génial.
Mais vous aimeriez pas le faire ?
Ah non, moi je pense que j'en serais incapable. J'ai pas du tout de vision, je pense que je pourrais pas du tout être réalisatrice, j'ai pas d'idée de plan particulier, je saurais pas diriger des acteurs, tout ça c'est des choses qui m'échappent et c'est vraiment des savoir-faire que j'ai pas et que j'adore voir chez les autres.
Écrire un roman, c'est aussi pour vous un moyen de contrôler l'histoire, là quand on fait des images c'est plus compliqué, c'est pas vous qui réalisez, c'est quelqu'un qui va choisir les acteurs, vous aviez aussi cette envie de pouvoir raconter complètement une histoire comme vous vouliez ?
Totalement, j'avais envie d'être libre, en fait, de faire une histoire pour moi, d'aller exactement où je voulais aller. En plus, j'écris beaucoup de séries, j'adore les séries, j'ai énormément regardé. Mais pour moi, la littérature, ça reste le lieu de la complexité, où on peut vraiment explorer toute une gamme d'émotions, on peut jouer avec les mots, jouer avec le style, on peut aller très profondément dans la psychologie d'un personnage.
Vous aimez les... Je reviens juste un peu en arrière. Vous aimez les romans, les mélos, les romans sociaux qui britanniques, par exemple, ou pas du tout ? Enfin, britanniques, je parlais d'un Irlandais, attention à ce que je dis. Mais...
Alors, je connais assez peu. J'avais lu des... Comment il s'appelle, celui qui a fait The Writers Club ?
Ça me dit quelque chose, mais j'ai oublié.
Jonathan Coe.
Ah oui, Jonathan Coe.
Voilà, pour moi, ça se limite un peu à ça, mais j'adore Jonathan Coe.
Jonathan Coe est beaucoup plus ironique, il est moins tendre. Il est très cérébral.
Oui, c'est vrai, il est très, un peu cynique aussi. Oui, c'est vrai. C'est de la satire, en fait, plutôt, tout à fait.
Bon, ouais, c'est pas grave. Ce premier roman, donc on revient à votre premier roman. La Saison des Bêtises, c'est le récit de plusieurs années de la vie de Victoire, une fille de parents de la classe moyenne, me semble-t-il, supérieure. Elle a bien eu quelques problèmes relationnels avec eux, mais rien de bien grave. Elle fait des études moyennes d'histoire, presque, on peut presque dire médiocre. Elle ne s'épanouit pas trop dans le travail assez absurde qu'elle fait. Elle entend pourtant toute la semaine, le week-end, pour aller faire la fête et prendre des substances illicites. Et là, je dois le dire parce que c'est mon rôle. C'est pas que c'est pas bien, c'est qu'il faut pas le faire. Parce que c'est dangereux et qu'on met sa santé en jeu et que je tiens absolument à le dire. Et que quand je parle de substances illicites, je mets l'alcool dedans, toute forme de substance. Je vais pas vous poser la question de savoir si c'est une autobiographie ou pas, parce que ça vous regarde. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous pensez que Victoire était emblématique de sa génération ? Est-ce qu'elle représente quelque chose de l'époque ?
Alors, c'est une question à laquelle j'ai toujours un peu de mal à répondre. Je ne l'ai pas pensée comme la représentante d'une génération tout entière. Enfin, je ne pourrais pas mettre ce poids-là sur les épaules de Victoire. Mais de fait, c'est quelqu'un qui appartient à sa génération. Elle a connu des événements marquants dont je parle dans le livre, auxquels elle fait référence. Le 11 septembre, la crise de 2008, l'arrivée d'Internet, la démocratisation d'Internet. Et ce sont des événements qui l'ont marquée. Et de fait, elle représente, oui, elle est un peu représentative de sa génération.
En tout cas, c'est cette jeune fille de la classe moyenne, moi je vais dire qui se drogue, hein, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est quelque chose, de, me semble-t-il, d'un peu plus courant aujourd'hui. On voit bien les études qui paraissent, et encore une fois, on ne va pas faire une émission sur la drogue, je tiens à vous rassurer, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc est-ce que c'est parce que vous aviez envie de raconter une histoire que vous n'aviez jamais lue avant ? C'était
exactement
ça qui vous intéressait, cette personne qui finalement... 5 jours par semaine va au travail, elle est employée modèle, elle sert des cafés à tout le monde, on l'adore pour ça. Et en fait, elle va pas très bien, ça, elle a, on en reparlera après. Mais surtout, elle a une vie à côté que personne n'a l'air de voir.
Oui, je m'intéressais beaucoup à la double vie, à la notion de double vie, d'être double, d'avoir une face diurne et une face nocturne. Et oui, tout à fait.
Très bien. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que ces gens qui prennent des substances pour s'oublier, ils sont dans une super conscience de ce qu'ils font. Ils sont en permanence dans le calcul des doses, des produits, des machins. C'est ça, vous êtes documenté pour savoir comment ça se passait ? Parce que moi, j'ai été fasciné par ça.
Alors, j'ai vraiment fait ça pour aussi illustrer que Victoire, c'est quelqu'un qui a l'illusion qu'elle contrôle tout. C'est quelqu'un d'extrêmement obsessionnel. Je pense que beaucoup de gens qui se droguent sont obsessionnels et veulent, en utilisant des produits, en se droguant, choisir les moments où ils vont ressentir des choses. Donc on a l'illusion qu'on contrôle tout, qu'on contrôle les moments où on ressent, les moments où on a des sensations, où on a certaines pensées. Et donc effectivement, elle est très obsessionnelle et elle a l'illusion qu'elle maîtrise. Est-ce que je me suis renseignée ? Il se trouve que moi, c'est un univers que je connais un petit peu. Et c'est un univers dont je voulais absolument parler, qui a ses codes, qui a son vocabulaire, qui a son atmosphère.
Ça, c'est le milieu des fêtes de la nuit, plutôt ?
Oui, tout à fait.
Parce qu'en fait, tout ça se passe pendant des fêtes, moi je dirais techno, mais je dis peut-être des bêtises.
Non, c'est complètement lié à l'univers de la techno, à l'univers de la musique électronique, qui n'est pas nouveau. Hein. Ça fait une trentaine d'années que ça existe maintenant, cette scène.
Et c'est cet univers-là donc, dont vous vouliez parler, ces soirées éternes qui, a priori, ne se terminent jamais ?
Oui, c'est ça, c'est cet univers des drogues dites festives. C'est un peu un euphémisme, mais de fait, c'est des drogues qu'on utilise pour faire la fête, pour danser le plus longtemps possible. Et il y a toute une modalité de fêtes qui s'est créée autour de la prise de drogue. Par exemple, les afters, elles se sont créées parce qu'une fois que la fête est terminée, comme on a pris trop de drogue, on n'a pas envie d'aller dormir. Donc c'est une manière de continuer la fête indéfiniment. Et ça, c'est complètement lié à l'usage de certaines drogues.
Et ça commence à Berlin, c'est pas un hasard. Qui
tout
est un
fait.
Peu la ville qui semble, à Victoire en tout cas, une ville idéale où on peut être ce qu'on veut.
C'est une ville emblématique pour moi. Il y a un livre de Zweig qui s'appelle Le Monde d'hier. Ouais. Et il parle de Paris. Et pour lui, Paris est la ville de l'éternelle jeunesse. Donc c'est dans les années, je ne sais plus, les années 10-20 au moment où il y va. Et pour moi, Berlin, c'est un peu la ville de l'éternelle jeunesse d'aujourd'hui.
Ça
c'est
aurait
peut-être
changé.
Maintenant que c'est un peu passé. Peut-être que maintenant, je suis déjà un peu trop vieille. Mais en tout cas, il y a 10 ans, quand moi, je fréquentais Berlin, c'était vraiment la ville qui incarnait l'éternelle jeunesse. Et c'est effectivement une ville utopique pour Victoire, une ville où elle pourrait se laisser aller, une ville qui ne réclame pas qu'elle donne tout ce qu'elle a, qui ne lui demande pas d'être ambitieuse. C'est quelqu'un qui a très peu d'ambition. Elle s'en vante d'ailleurs. Et en même temps, c'est une ville un peu double parce que, voilà, à un moment donné, je dis que ce serait une ville où elle pourrait éteindre le courant, où elle pourrait éteindre là-haut, sous-entendu, où elle serait plus obligée de penser, ce qui est un peu une forme de mort aussi, ce serait un peu une forme de suicide. Donc c'est une ville qui est double.
Alors pour préparer l'émission, j'ai lu plusieurs articles de presse, et ce que je vais faire là, c'est un peu ce que je vais leur reprocher, mais c'est pas grave, qui parlent de votre roman comme d'un roman sur la drogue, c'est vrai, on vient de parler que de ça. Mais moi, ce que j'ai surtout lu, c'est un livre terrible sur l'ennui, sur l'histoire d'une jeune fille qui vit un ennui infini, qui ressent un vide existentiel démesuré.
Tout à fait. Pour moi, l'ennui fait complètement partie de l'addiction, au point que ça devient un peu un système. C'est-à-dire que on s'ennuie, on a une vie un peu triste, on n'est pas très heureux dans sa vie. Du coup, on prend des drogues pour pallier cet ennui. Et puis après, c'est comme si on préservait cet ennui, comme si on cultivait cet ennui pour que les fêtes continuent à être fantastiques, en fait.
Pour qu'il y ait un écart. Quoi. C'est
exactement.
Je suis en train de faire un geste qui ne renseigne personne puisqu'on est à la radio et qu'on n'est pas encore filmé, même si on a une magnifique console. Il y a un écart entre, entre le volume des journées ordinaires et la fête qui est des moments extraordinaires. Donc il faut s'ennuyer le reste du temps pour pouvoir éprouver la puissance de la joie.
Exactement.
Quoi.
Oui, la fête sera d'autant plus belle si on s'est vraiment beaucoup ennuyé pendant la semaine.
Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui s'ennuient volontairement pour pouvoir faire... c'est vous qui avez fréquenté cette scène-là.
C'est pas conscient. Je pense que c'est complètement inconscient, mais ça fait partie de l'addiction. En fait, on veut pas investir sa vie du jour tellement la vie nocturne est fantastique. Enfin, en tout cas, elle donne l'illusion d'être fantastique.
Comment on fait pour écrire un livre sur l'ennui qui ne soit pas un livre ennuyeux ? Comment vous avez travaillé ça, vous ? Est-ce que c'est d'abord une question que vous vous êtes posée ? Comment vous l'avez résolue ?
Alors non, je ne me suis pas posé cette question en écrivant. Après, moi, j'ai essayé d'être très rythmée, d'utiliser une écriture extrêmement rythmée. Alors, surtout le premier chapitre où elle est en soirée. Et c'est vrai
c'est
que
incroyable.
Le style...
Alors, elle se dit très bien, mais le premier chapitre est incroyable.
Et c'est vrai que parfois, le style s'étire un petit peu dans d'autres moments, par exemple dans ces moments d'ennui ou d'attente. Mais non, j'ai pas pensé à ça. Après, j'ai aussi essayé de créer de la dramaturgie au sein même des chapitres.
Ça, c'est l'expérience du scénariste.
Ouais, tout à fait. Et donc, c'est vrai que c'est des chapitres où il se passe a priori pas énormément de choses, mais où j'ai vraiment essayé de mettre de la dramaturgie.
Et puis ce que vous faites, c'est que, alors elle le dit et vous venez un peu de le dire, c'est que dans la drogue, le temps s'abolit et on a une impression de temps qui est arrêté ou en tout cas qui est éternel. Vous avez écrit un roman qui est peut-être 8 chapitres, chapitres,
ouais.
Qui chacun correspond à une année de sa vie.
Tout à fait.
Donc vous remettez du temps et on la voit évoluer au fil du temps.
Tout à fait, c'était important pour moi qu'on la suive à la fois dans un instantané, c'est-à-dire chaque chapitre correspond à un moment, à un instant T.
Ouais, il faudrait peut-être expliquer ça, parce que c'est très particulier. C'est que chaque chapitre est comme une séquence, un peu.
Exactement. C'est comme un plan-séquence.
Ouais, c'est ça. C'est un plan-séquence. Ouais. Ça ressemble exactement à ça. Ouais.
Exactement. Et donc, pour moi, c'était une manière d'être complètement avec elle, d'être immergée dans ses pensées, dans ses impressions, et d'être avec elle dans l'instant présent. Parce que pour moi, c'était important de parler de l'instant présent. Je pense que Victoire, c'est quelqu'un qui est malade de l'instant présent, qui n'arrive pas à être dans le présent, comme beaucoup de gens qui se droguent.
Et c'était comme beaucoup de gens tout court.
Comme beaucoup de... Non, mais totalement, exactement. Comme beaucoup... Mais tout le monde se drogue. On est tous drogués, on vit dans une société où on est tous drogués à quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Mais c'était aussi important de la suivre sur le temps long. Je pense que l'addiction, c'est aussi un rapport avec un produit qu'on entretient sur le temps long, comme une relation avec une personne. Et je voulais montrer comment elle allait évoluer par rapport à cette consommation, mais par rapport à tout un tas d'autres sujets.
Ce qui vous intéresse, c'est la trajectoire ?
Tout à fait, exactement.
Et est-ce que vous diriez que c'est plus le point d'arrivée qui vous intéresse ? On ne va pas en parler. Hein. C'est plus le point d'intérêt, le point d'arrivée ou le chemin qui vous intéressait, ou les deux ?
C'est toujours le voyage qui compte.
Vous êtes sur cette... faites partie de l'école voyage ?
À fond l'école voyage. D'ailleurs, le titre me vient d'un livre de voyage... qui est un livre de Nicolas Bouvier qui s'appelle « L'usage du monde », qui est vraiment un de mes livres de chevet que j'adore. Et j'ai trouvé mon titre dans son livre.
Il parle de « Saison des bêtises », Nicolas Bouvier ?
Oui, tout à fait. En fait, il cite un personnage qu'il rencontre en Iran, qui est par ailleurs drogué à l'héroïne, comme beaucoup de gens en Iran, à l'époque où
juste
il écrit.
Juste, pardon, je vous coupe la parole, parce que Bouvier, c'est un grand écrivain voyageur, pour les gens qui nous écoutent,
qui
a publié beaucoup de récits de voyage, qui est, je crois, le maître du genre.
Ah oui, lisez ce livre, L'usage du monde.
Je vous rends la parole sur cette personne qui prenait de la drogue, donc en Iran, que croise Nicolas Bouvier.
Voilà, tout à fait, et donc ce personnage parle de saison des bêtises pour évoquer l'addiction, et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau, très bien trouvé, ça évoquait l'enfance. Pour moi, se droguer comme le fait Victoire, c'est pas toujours le cas, mais c'est aussi se maintenir dans un état adolescent un peu artificiel. C'est le propre des gens qui veulent pas grandir.
C'est pas un peu euphémisant ?
C'est aussi un peu euphémisant, je suis d'accord, mais je voulais aussi dédramatiser. Parce que finalement, bon, bah voilà, je
vous vouliez pas faire un livre édifiant, vous vouliez pas raconter.
Mais je voulais pas faire un livre trop sombre. Enfin, c'est un peu sombre effectivement. Enfin, je pense qu'il y a des passages un peu sombres, mais j'ai aussi essayé d'y mettre beaucoup d'humour, d'y mettre de l'espoir, de la clarté. Et puis bon, voilà, c'est aussi une saison, ça passe. Il y a des étapes comme ça dans la vie.
Je suis pas sûr qu'on ait prévu de la techno aujourd'hui, mais on va écouter un peu de musique. On est avec Mathilde. Non, j'ai essayé de bien dire votre nom. Mathilde Heslin, et qui est l'autrice. Mathilde. Mathilde Heslin, qui publie aux éditions Les Avrils La saison des bêtises. On se retrouve après ça.
Ils ont voulu nous faire, on a quand même marqué dans les playoffs. Ça finit bien, alright. Le mal accumulé, je le performe. Ils ont pas le cran pour être adversaire. C'est nous les rôtes. Tellement de larmes qu'on retient de verser. Ça finit bien, alright. Alright, alright. Pourvu que ça finisse bien, alright. Alright, alright, alright. C'est la vraie vie, pas HBO. Vida bizarre comme le frigo. On veut la paix, on veut freedom. Ils ont voulu toucher à nos points vitaux. J'ai la vision depuis les dents de lait. Y avait tant de loups. Je compte plus les fois où tout s'est envolé. Ces moutons dans le bloc. I'm ready, you know. I'm ready, I'm ready, you know. Pas dormi night and day. J'ai tellement attendu, je suis al dente. Je rappe, je fais les mélos, j'ai alterné. À quel moment ils auraient pu me berner? Comment ça ils ont douté, hein? Dans le son je fais du tout terrain. Dans le noir depuis full de moi. Je compte bien faire tout briller autour de moi. I'm ready, you know. I'm ready, ready, you know. I'm ready, you know. Alright.
Parler de travail, bim bim. Parler de bendo, de bédo, de bibi. Parler de baby qui m'appelle à bibi. Parler de parcours de Shakur à Biggie. Parler de biblique puisqu'on est égaux. Parler du Christ car le Christ était négro. Parler trop pressé, parler pour prêcher. Parler sa mère car se taire est un péché. Parler de Dieu parce lui des colonies. Dépasser les cadavres et les palabres et les dramas. Love dans les yeux jusqu'aux cieux, follow me. J'étais paranoïa comme un négro d'Alabama. Maintenant j'existe, maintenant j'existe. Maintenant j'ai drapeau, j'ai gamo, c'est quichta. Riche, bitch, billionaire speech. Molotov cocktail, Molotov gospel. Ah.
Ça finit bien.
C'était Alright, Youssoupha featuring Yasuke, ou le contraire, j'ai pas tout compris, mais je crois que c'était ça l'idée. Et. Vous avez assisté en direct à une collision de virgules et de fonds de morceaux. Complètement inattendu. On est toujours avec Mathilde Heslin, merci d'être avec nous.
Merci.
D'ici à la fin de l'émission, je me promets de dire correctement votre nom. Votre livre s'appelle toujours La saison des bêtises et c'est toujours édité aux Avrils. Quel livre avant, alors, on le redit, hein, c'est pas un livre sur la drogue, mais quand même, quel livre vous avez lu avant de vous lancer? Est-ce que vous avez relu des livres sur le sujet? Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont inspiré? Donc vous avez été voir comment on raconte cet état?
Alors, j'ai essayé de lire des livres sur la drogue. Il y en a beaucoup que j'ai même pas réussi à lire. J'ai revu quelques films. J'ai revu Trainspotting, par exemple.
Requiem for a Dream.
Alors ça, je pense que je pourrais jamais le revoir. Je l'ai vu quand j'étais ado, ça m'a complètement traumatisé.
Moi, j'ai jamais vu.
Ça m'a pas empêché
fait
de faire
peur,
des fêtes, mais... ce qui est la preuve que ça ne sert à rien de faire de la prévention, enfin que l'art ne sert pas à faire de la prévention, l'art sert à faire autre chose. Alors il y a quand même un livre que j'ai relu plusieurs fois qui s'appelle Le Jardin de l'Ogre de Leïla Slimani. Elle parle pas de la drogue en tant que, enfin elle parle
de l'addiction.
Ouais, elle parle de l'addiction. C'est une femme qui a une addiction au sexe en fait, enfin qui peut pas s'empêcher de tromper son mari dans des conditions de plus en plus horribles pour elle. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien. Elle décrivait extrêmement bien les mécanismes de l'addiction. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Dans
c'est
un style un
vous...
peu froid, mais très efficace.
C'est plusieurs fois que vous dites que vous vous intéressez aux mécanismes. C'est ce que vous avez aimé faire. C'est presque un travail d'horloger.
Ah, totalement. Ouais. C'est vraiment. Moi, je vois ça comme de la dentelle, mais horloger, ça me va aussi.
Je ne sais pas, c'est Louis XVI avec ses petits mécanismes qui fait tourner ses engrenages, qui regarde. C'est votre côté suisse. Très bien. Et de façon plus générale, les auteurs que vous aimez quel type de littérature ?
Oh là là, j'aime beaucoup de styles différents. J'ai cité Nicolas Bouvier, j'ai cité Zweig, j'aime beaucoup la littérature germanophone.
Si vous pouvez nous conseiller, c'est pas une littérature qu'on connaît forcément très bien.
Alors,
pas un piège.
Non, mais par exemple, il y a un livre que j'adore, enfin il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Arthur Schnitzler, qui a écrit. Moi, j'adore lire des nouvelles en fait.
Contemporain de Zweig.
Pardon.
Je dis juste que c'est un contemporain de Zweig.
Tout à fait, tout à fait. Et donc Arthur Schnitzler a notamment, il a écrit une nouvelle qui a inspiré.
Qui a inspiré un film.
Oui, qui a inspiré.
Je ne pense qu'à ça.
Eyes Wide Shut. De Kubrick. Si vous avez vu ce film, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir et surtout à lire le livre. Et puis surtout, il a écrit une nouvelle qui s'appelle Mademoiselle Else, qui est la première occurrence, je crois, dans la littérature occidentale du stream of consciousness. Donc c'est le fait d'être, de suivre les mouvements de pensée d'un personnage. Et c'est magnifique, c'est très très beau.
On revient à votre livre à vous qui un jour sera peut-être cité par des gens qui auront tes œuvres. Moi, j'aime beaucoup la saison des bêtises de Mathilde Hanzelin. Voilà, je l'ai bien dit. Vous avez, vous, aussi un style très particulier parce que vous parlez de ce personnage Victoire. Vous êtes très, il m'a semblé en tout cas que vous étiez très classique dans la syntaxe, mais que vous injectiez beaucoup de mots qui ne sont pas des mots très littéraires, notamment tout le nom des produits que prend cette jeune fille. Aussi, il y a des moments, elle parle comme parle une fille de 20 ans d'aujourd'hui. C'était volontaire ? Vous avez fait ce travail volontairement ?
Oui, totalement. Et j'ai vraiment utilisé ces mots pour leur qualité rythmique, en fait. Je m'intéresse.
C'est le rythme, là.
Ouais, je m'intéresse beaucoup au rythme quand j'écris. J'ai une petite musique intérieure que je suis.
Donc ça sonne juste, et si ça sonne pas juste, vous reprenez.
Exactement.
C'est ça que vous savez. D'ailleurs, moi, il m'a semblé qu'on employait très peu le mot drogue dans votre livre. On parle de produits, on parle de d'autres mots, enfin des produits. Enfin, moi, je les connais pas tous, du C, de K, de plein de trucs qui j'ai couvert ma vie. J'ai couvert qu'on prenait des CK. Je croyais que c'était Calvin Klein, moi, mais non, pas du tout.
Ça s'appelle un Calvin Klein, mélange de coke
oui.
Et de kétamine.
Et on rappelle
ne reproduisez pas ça.
Et
chez
on
vous.
Rappelle qu'il ne faut pas le faire, mais on le dit très sérieusement. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, vous employez le mot. Pas le mot drogue, parce que vous avez l'impression que c'est un mot qu'on emploie moins aujourd'hui. Moi, ça m'a paru comme une évidence. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle moins de drogue en tant que telle, et que finalement, c'est pas un hasard si quelqu'un qui écrit sur l'époque d'aujourd'hui l'utilise moins. Et peut-être qu'aussi, Victoire, quand elle en prend, elle oublie ce qu'elle fait comme ça.
Ben oui, en fait, c'est dans les milieux où les gens se droguent. Alors, je connais pas tous les milieux, mais en l'occurrence, le milieu de la fête, on prononce jamais le mot drogue. Je pense que c'est une manière d'euphémiser.
Mais c'est parce qu'on a l'image du drogué comme quelqu'un de marginal, d'en dehors de la société. Et que là, comme vous disiez tout à l'heure, c'est des gens qui sont en fait, qui ont deux vies et qui ont une double vie dont une qui est cachée.
Mais en fait, quand on se drogue, on ne se sent jamais concerné par la drogue. C'est toujours les autres, les drogués. Donc, c'est pour ça.
Alors, on a beaucoup parlé de drogue, mais votre livre, il parle aussi de travail, il parle d'amour. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On ne sait pas lequel des deux est préférable, parce que tout est tellement... La pauvre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle ressent un grand vide, et donc elle a beaucoup de mal à s'impliquer dans la vie. Le travail, notamment le monde du travail, la manière dont vous l'écrivez est terrible. C'est quelque chose que vous avez observé? C'était une envie de raconter ça aussi?
Oui, alors j'ai l'impression qu'on vit à une époque où la notion même de travail est un peu remise en question. J'ai l'impression qu'il y a énormément de souffrance au travail, que les gens font des burn-out sans arrêt. Enfin, dès que j'allume la radio, j'entends parler de dépression, de souffrance au travail. Donc oui, j'avais vraiment envie de parler de ça.
Elle, on a plutôt l'impression qu'elle est en burn-out, elle s'en dit, mais alors terriblement. Notamment le premier poste qu'elle occupe qui a l'air complètement absurde, où elle sert des cafés, de temps en temps, on lui demande une note de synthèse, et on ne sait pas très bien ce qu'elle fait. D'ailleurs, vous ne le dites pas. On ne sait pas très bien, dans une entreprise dont on ne sait pas ce qu'elle fait. Moi, ça, j'ai trouvé ça très fort, parce que vous décrivez très bien l'absurdité de tâches dont personne, finalement, a l'air de comprendre très bien à quoi elles servent.
Ah, c'est le bullshit job. j'ai voulu parler des bullshit jobs, tout à fait.
Parce que vous en avez fait vous-même? Vous en avez observé, c'est ce qu'on vous raconte? Vous, je ne faites pas un bullshit job pour le coup, scénariste?
Non, ouais, tout à fait. Non. Bon, après, moi, j'ai fait un peu des stages par-ci par-là comme tout le monde, mais c'est aussi des anecdotes qu'on a pu me raconter. Et alors, c'est drôle parce qu'il y a vraiment des gens très, très, très différents qui font des métiers extrêmement différents qui m'ont dit qu'ils s'étaient vraiment identifiés au chapitre sur le travail. Qui font pas forcément des bullshit jobs, même pas du tout, mais qui se sont sentis concernés. Et oui, j'avais envie, effectivement, elle fait un bore out. Comme je l'ai dit avant.
Moi, je ne sais pas très bien traduire comment traduire bore-out. C'est méga ennui, c'est une espèce de pétage de plomb parce qu'on s'ennuie tellement qu'on n'arrive même plus à se motiver.
Bah, oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça aujourd'hui. Après, elle en profite parce que c'est ça aussi qui lui permet de faire la fête et de ne pas se sentir coupable de faire la fête. C'est qu'elle se dit, c'est tellement pourri que ce que je fais, je n'ai pas du tout à me soucier des conséquences.
Vous posez à un moment cette question dans votre livre et moi aussi, j'ai du coup aussi envie de vous poser, qu'est-ce qui est arrivé à cette génération-là pour qu'elle s'ennuie autant? On a l'impression qu'elle n'a jamais eu autant de divertissement à portée de main. Elle a un monde au bout des doigts. Moi, j'allais dire, j'ai la chance d'être un peu plus vieux, c'est bien la première fois que je dis ça. Mais on se dit, il y a une telle puissance au bout de ses mains et autant d'ennuis.
Mais c'est totalement ça, c'est qu'on a je pense qu'au-delà de la consommation de la drogue, on est dans un mode de surconsommation de tout. On est dans un monde qui nous pousse à être addict en fait à tout. Je regardais il n'y a pas longtemps un documentaire sur Arte que je recommande à tout le monde sur l'industrie agroalimentaire et sur la nourriture ultra transformée et en fait qui montre comment les industriels créent de la drogue. En fait, on est entouré par la drogue et ça crée forcément une perte de sens.
Et puis vous racontez... On va dire qu'il crée de l'addiction.
Oui, mais avec l'addiction vient la perte de sens, vient le déni.
Je suis obligé d'être un peu mesuré, vous inquiétez pas, c'est mon rôle. Mais il y a aussi, ce que vous montrez aussi très bien, c'est l'absurdité. Moi, ça aussi, ça m'a beaucoup fait rire, je crois que c'est tout au début, quand elle est sur une plateforme de réseau en ligne, de contenu en ligne, et où elle va de contenu absurde en contenu absurde, où finalement, oui, on passe son temps à scroller des écrans, à regarder des choses
C'est de l'addiction.
Vides.
C'est de l'addiction aussi. Hein,
là, c'est
en
la
fait.
Dopamine.
Ouais, c'est
dopamine.
C'est les mêmes neurotransmetteurs qui fonctionnent dans le cadre d'une prise de drogue et quand on scrolle, en fait. Mmh. Et quand on mange un aliment très, très sucré. Alors, évidemment, on ne peut pas tout comparer, mais de fait, c'est la même chose qui se passe dans le cerveau.
Alors, moi, je suis allé voir très récemment Le Brutaliste, là, tout le monde s'en fiche, mais il y a juste au début de ce film une phrase qui m'a beaucoup fait penser à votre livre, vous voyez, on compare aux grandes œuvres. C'est une phrase de Goethe qui dit « Nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être ». Je me suis demandé si vous n'auriez pas pu l'écrire en exergue de votre livre.
Ah ouais, j'aurais beaucoup aimé connaître cette phrase, je pense que j'aurais pu la mettre. En plus, ben oui, Goethe, moi je m'intéresse...
Enfin, vous avez dit que vous aimiez la littérature allemande.
Oui, et puis je suis très sensible au romantisme, je pense qu'il y a une forme de romantisme dans le sens époque romantique. Voilà, une période de perte de sens, de recherche de sensations, et puis de très très grande...
De souffrance entre l'écart, entre ce qu'on voit et ce qu'on est.
Oui, exactement, et puis de pessimisme en fait.
Elle va apprendre, elle arrive, sans trop en dire, on va dire que Victoire, votre héroïne, apprend à être vraiment libre, à trouver un chemin intérieur. C'est pas un livre de développement personnel, c'est de la littérature, je tiens à le dire. Mais c'était ça aussi que vous vouliez montrer, qu'il y avait tout peut-être... pouvez trouver une liberté intérieure en dehors de produits qui sont des illusions.
Oui, totalement. Moi, je voulais vraiment, je voulais faire, montrer un parcours, un personnage qui suit une trajectoire, qui part d'un point A, où elle a l'impression de tout maîtriser, où elle se sent un peu supérieure aux autres quand même. Et puis
d'avoir tout compris.
Et puis alors que elle-même, en fait, elle reproduit le système qu'elle critique dans les soirées en consommant de la drogue. Et puis je voulais montrer voilà, comment à un moment donné elle va se rendre compte que sa vie ne lui plaît pas, qu'elle est très malheureuse, comment elle va s'en sortir, et pour moi elle va s'en sortir en écoutant son désir le plus profond.
Très bien.
On ne va pas divulguer ici, mais...
C'est ce qu'on souhaite à tout le monde, de découvrir et de suivre son, d'atteindre son désir. Peut-être, en tout cas, d'avoir toujours du désir, en tout cas. Oui. Donc, d'avoir des désirs et de les écouter. Merci beaucoup, Mathilde Inzelin. Je rappelle le titre de votre livre, La saison des bêtises, aux éditions Les Avrils. C'était La Relève, une émission présentée et proposée par Christophe, réalisée ce soir avec la nouvelle console de Radio Campus par Nina. Cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris. .org à 19h, je crois qu'il y a une matinale ce soir. Ce soir, donc, la matinale de 19h aura lieu à 19h et nous on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée.